Bonsoir. Province du Nord-Kivu, 10 civils tués et des boutiques pillées le dimanche dernier dans une incursion attribuée aux ADF à Mangokour, un village du territoire de Benimbao. Quelle lecture faire de cet énième massacre dans cette partie du pays? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Honorable Grégoire Kirontsongo. Bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes député national de l'opposition et secrétaire général du RCD-KML. Vous êtes élu de Béniville, au Nord-Kivu. On aura aussi le gouverneur Julien Paluku. Est-ce qu'il est déjà en ligne? Monsieur le gouverneur, bonsoir. Non, il n'est pas encore en ligne. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le gouverneur.
Bonsoir.
Merci bien. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Incursion des présumés ADF dimanche dernier à Mangboko, un village du secteur de Benimbao situé à plus ou moins 22 km au nord-est de la ville de Beni. Selon la société civile locale, 10 civils ont été tués et des boutiques pillées par les assaillants au cours de cette attaque. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Cette attaque est intervenue aux environs de 18h30 heure locale. Selon les sources sécuritaires, un groupe de présumés ADF a fait incursion à Mangoko, un village situé aux abords de la route nationale numéro 4 et à 2 km de la localité de Mbaou, chef-lieu du secteur de Benimbaou. D'après la même source, les FRDC qui sont intervenus se sont affrontés avec les assaillants jusqu'aux environs de 21h locale pour empêcher leur progression vers d'autres agglomérations. Janvier Kassaïrio, secrétaire de la société civile du territoire de Beni, parle des 10 civils tués au cours de cette attaque.
Les ADF sont entrés, ils ont attaqué une voiture. La voiture a été incendiée sur place. Ils ont aussi attaqué des magasins, pillé tous les biens de ces magasins-là et une pharmacie. Tous les médicaments ont été emportés. Ils ont tué 10 personnes. Toutes ces personnes tuées sont des habitants exactement de Mangoko.
Une fois l'information récite, les forces de la MONUSCO y ont immédiatement dépêché une patrouille qui a échangé des tirs avec les assaillants. Signalons que la société civile du territoire de Beni, en mémoire à ces civils tués, annonce des journées de deuil. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Papi Mukeba. Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, c'est avec beaucoup de peine qu'on va vous reposer la même question pour la énième fois. Comment vous expliquez ce nouveau massacre?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le débat d'aujourd'hui, il est à la fois difficile, provocateur et même interpellateur. Il est difficile parce qu'il engage la responsabilité là où beaucoup ne préféreraient pas parler, comme vous venez de le dire. Il est provocateur parce que la population ne veut pas entendre des justifications là où elle meurt chaque jour. Mais je pense qu'il est interpellateur parce qu'il soulève la problématique de la nécessité de nous rappeler que l'union fait la force, c'est-à-dire entre armée et population, l'union fait la force, entre majorité et opposition, l'union fait la force. Lorsqu'on fait face à de tels actes terroristes, on l'a vu en France, on l'a vu en Belgique, on l'a vu aux États-Unis, lorsque Charlie Hebdo est arrivé ou Bataclan et ainsi de suite, eh bien tous les Français se sont levés, eh bien ils ont eu le même langage pour dire nous accompagnons nos forces armées, nous accompagnons nos unités de police pour faire face à ça. Alors le Nord Kivu, comme vous le savez, a eu plusieurs parties de guerre. Nous avons eu la guerre du CNDP, nous avons eu la guerre du M23, et je peux affirmer, sans risque d'être contredit, que dans la partie massive Rutshuru, Walikale, Nyiragongo, jusque dans la partie Lubero, il n'y a plus de guerre comme telle engagée, même si il y a encore quelques poches de Maïmaï, Mazembe, Nyatura, un peu de FDLR. Ce qui se passe à Beni, c'est maintenant la guerre comme telle. Et je crois que nous devons intérioriser cela, que la seule partie qui pose encore problème à la République démocratique du Congo, c'est Beni où il y a la guerre. Alors, il y a quelques temps, j'avais dit sur Radio Okapi que nos forces armées venaient de détruire l'une des grandes bases de Mwalika et l'autre de Mapobu. Et ce que je veux dire, la compréhension que j'ai de cette dernière attaque, c'est que lorsque nos forces armées sont arrivées à Mwalika, qui était vraiment l'un des grands bastions, et à Mapobu, on a constaté qu'il y avait de vastes étendues de champs, de maïs, de manioc, de haricots qui étaient cultivés par ces ADF en plein parc. On a constaté qu'il y a ce qui est très surprenant, de vastes étendues de chanvre. Et je dois rappeler qu'on se demandait comment les chanvres circulaient dans la région de Beni Butembo et même vers l'Ouganda, parce qu'un sac de chanvre à Kasindi, la frontière avec l'Ouganda, coûte $350. Lorsqu'il est rendu en Ouganda, il est à $500. Et nos forces armées, lorsqu'ils ont capturé la base de Mwalika, ils y ont trouvé 50 sacs qu'ils ont détruits tout de suite, ce qui représente $25,000 automatiquement, avec des quantités importantes de nourriture. Donc nous avons compris que c'était l'une des sources de financement à côté d'autres sources extérieures dont disposent ces rebelles. C'est pourquoi je ne pousse pas le point de vue que vous venez d'évoquer quand vous dites les présumés ADF ont encore attaqué. Ce sont des ADF qui ont attaqué. Et effectivement, lorsque nous avons analysé les quantités qu'on a trouvées dans la base de Mwalika, les médicaments qu'ils avaient déjà stockés, nous commençons à comprendre effectivement qu'à chaque fois qu'on détruit l'une des bases, on met fin à l'approvisionnement de ces rebelles, et bien ils cherchent partout les moyens pour s'approvisionner. Je viens de suivre la société civile de Beni par la voix de Janvier qui ont dit ils ont pillé la pharmacie, ils ont pillé des boutiques. C'est effectivement la riposte des FARDC qui a causé suffisamment de morts, qui a causé suffisamment de blessés, impose effectivement à ces gens de rechercher un peu partout qui des médicaments, qui la nourriture pour trouver la survie. Et je crois, comme vous parlez de la compréhension, je crois que c'est cette compréhension que nous avons aujourd'hui. Et nos forces armées savaient déjà effectivement qu'en détruisant cette base, il y a des risques qu'ils se rabattent dans les grandes agglomérations.
Monsieur le gouverneur.
Elles sont allées dans les grandes agglomérations sans savoir qu'ils allaient contourner pour venir dans la petite localité de Mangopo où ils ont pillé, attaqué et se rabattre sur la population.
Monsieur le gouverneur, il y a Chomba Fikiri de Bukavu au sud Kivu qui dit « Je n'arrive pas à comprendre qu'après 5 opérations militaires, au lieu que la capacité de l'ennemi diminue et ne fait que s'accroître du jour au lendemain, à mon avis, les autorités congolaises devraient évaluer toutes ces opérations dans le but de changer de stratégie, au lieu d'évoluer avec les stratégies qui jusque-là n'ont apporté pas grand-chose en termes de solutions à ces génocides qui se passent à Beni sous la barbe impuissante du gouvernement congolais et des Nations Unies, monsieur le gouverneur.
Oui, moi je crois qu'il n'a pas tort. Et c'est ce qui justifie que les opérations telles qu'elles avaient commencé au début ne sont plus les mêmes. En 2014, je l'ai dit, mais beaucoup de gens ont critiqué ce que j'ai évoqué. Si vous voyez l'ampleur des massacres tels que ça se commettait au début, en 2014, c'était la catastrophe. C'était 60 morts, c'était 70 morts, je me rendais à Beni chaque jour. Eh bien, l'armée a compris de plus en plus la technique qu'utilisaient ces ADF, parce que on croyait faire face à une guerre conventionnelle alors que nous avons en face de nous des terroristes. Et donc moi je crois que il y a une minimisation, peut-être une appréciation pas très bonne de notre ennemi, et à force de les connaître, eh bien on commence à comprendre évidemment comment ça se passe. Mais les gens se posent la question, mais on va comprendre ce qui se passe jusqu'à ce qu'il y ait combien de morts. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, dans la douleur que nous ressentons, nous devons continuer à encourager notre armée à aller de l'avant, parce que cet encouragement va pousser notre armée à rechercher plus de succès et plus de paix pour tout le monde. Parce que nous devons comprendre que les militaires, et c'est ce que les gens souvent oublient,
merci,
les militaires sont aussi des humains comme tout le monde qui ont besoin d'un encouragement dans le travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain.
Merci monsieur le gouverneur. Honorable Grégoire Kirotsongo, vous êtes député national de l'opposition et secrétaire général du RCD-KML, élu de Béniville au Nord Kivu. La même chose pour le gouverneur, c'est dans la douleur que nous reposons la même question. Comment vous avez accueilli ce énième massacre?
Écoutez, je dis d'abord bonjour à mes co-débatteurs et je présente toute ma compassion à la population de Beni qui ne cesse de payer un lourd tribut à l'insécurité. Donc, 11 morts de plus, 11 morts de trop, et trop c'est trop. Trop c'est trop, ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, je viens d'entendre le gouverneur Julien Paluku parlait de débat difficile, interpellateur et provocateur. Il a parfaitement raison, c'est un débat difficile parce que il n'y a plus de justification possible.
Après toutes les cartouches ont été épuisées
après 4 ou 5 opérations militaires, dont la dernière a été annoncée avec pompe en janvier dernier. Il s'agissait, d'après les autorités civiles et militaires, dont le gouverneur Paluku, il s'agissait, n'est-ce pas, de mettre un terme définitif à l'activisme de ce qu'ils appellent les EDF. Mais force est de constater que 4 mois après, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Je suis même surpris de l'entendre dire qu'il y a moins de massacres par rapport à avant. Écoutez, depuis l'annonce avec pompe de ces opérations, nous sommes à plus de 80 morts. Donc, dire que la situation c'est un peu améliorée, ben écoutez, je crois que c'est un peu aller un peu trop vite en besogne, excusez-moi. Donc, quand le gouverneur dit que tout le monde doit faire bloc par rapport à la situation qui se vit à Bénin, je suis tout à fait d'accord, et tout le monde fait bloc d'ailleurs. Vous allez voir que tout le monde apporte son soutien au FRDC. Il n'y a personne qui jette la pierre au FRDC, qui paye aussi un lourd tribut à la guerre sur place, même si il faut reconnaître que dans les FRDC, il y a malheureusement certaines brebis galeuses qui font que la cohabitation avec la population est de plus en plus difficile. Je rappelle quand même que il y a une semaine à peine, du côté de Païda, il y a un militaire des FRDC qui voulait voler une chèvre, et quand l'habitant s'est cabré, eh ben il s'est vu abattre, il a été abattu, et il y a une émeute de la population qui a réclamé pratiquement le départ des militaires. Donc hier encore à Moukoulia, il y a eu une situation similaire où un militaire a tiré sur un civil. Il y a eu des barrages. Le maire de la ville a même été surpris en voulant aller calmer la situation. Il a été pratiquement chassé. Donc c'est ça. Donc la population est tout à fait disposée à soutenir l'armée, mais sous certaines conditions.
Alors, honorable Kiro, en parlant de ce bloc, de cette union à laquelle appelle le gouverneur Paluku, est-ce qu'on ne dirait pas que cette union a été brisée avec notamment cette scène à l'Assemblée nationale où la majorité a pratiquement bloqué le contrôle parlementaire concernant le ministre de la Défense?
Mais justement, quand on parle de faire bloc n'empêche pas le devoir de redevabilité du gouvernement. Et à ce sujet, le ministre de la Défense a fait face à une motion de défiance parce que tout le monde était d'accord que face à la situation de Bénin, trop c'était trop et qu'il fallait bien que quelqu'un paye. On l'a invité, n'est-ce pas, au terme de cette motion, à venir s'expliquer à l'Assemblée nationale. À l'issue de l'explication, il y aurait normalement un vote, mais comme le jeu de la majorité et de l'opposition se fait à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires, ils y vont par des motions incidentielles et finalement tout débat est compromis. Donc c'est cela qui peut compromettre le bloc que tout le monde appelle de ses voeux. Parce que écoutez, comment voulez-vous faire bloc avec des gens qui manifestement ne veulent pas rendre des comptes? C'est assez difficile. Nous sommes tout à fait disposés, nous sommes sur la même barque. Nous avons, disons, la population qui se fait massacrer. Ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, ce sont nos familles, c'est la famille de tout le monde, qu'on soit de l'opposition, de la majorité. Et nous ne comprenons pas pourquoi nos amis de la majorité ont tendance à chaque fois casser le débat. Voilà.
Mais aussi sur le plan national, on a l'impression qu'il n'y a pas, on ne sent pas une mobilisation nationale.
Écoutez, je crois que je vais vous contredire un peu parce que ce n'est pas la première fois que les députés de l'opposition, notamment ceux du Grand Nord Kivu, ils font un forcing en termes de plaidoyer auprès des autres députés des autres provinces. En tout cas, nous avons toujours eu l'impression que nous étions soutenus par la grande partie de la population, qui disons des députés nationaux qui compatissent effectivement avec ça.
Mais ce forcing n'est jamais allé très loin, hein. On s'arrête toujours quelque part après quelques pressions et puis vous quittez la salle, ensuite vous revenez.
Ah oui, ça c'est comme je l'ai dit, c'est à cause de la majorité qui s'oppose fermement à ce que il y ait contrôle parlementaire, qui s'oppose fermement à ce que il y ait des gens qui payent alors que des gens doivent absolument payer.
Alors, est-ce que, à vous comprendre, honorable Kiro, donc on devrait parler, tirer des leçons de l'échec de toutes les opérations militaires?
Mais absolument, à partir du moment où quatre ans après le début des massacres, ceci continue. On doit s'arrêter à un moment donné, évaluer la situation et voir, se poser la bonne question, c'est-à-dire celle de savoir, est-ce que nous sommes dans la bonne stratégie?
Alors, Monsieur le Gouverneur a tout à l'heure dit, si je l'ai bien compris, qu'on ne devrait plus parler des présumés ADF, qu'il s'agissait des ADF. Peut-on dire qu'on a finalement le voile est tombé en ce qui concerne l'identité des assaillants?
Écoutez, il est indéniable que les ADF participent au massacre que nous déplorons sur place. Mais il est aussi vrai que de l'avis de beaucoup d'observateurs, ces ADF n'agissent pas seuls. Il y a beaucoup d'autres forces qui agissent en parallèle des ADF. Ça, c'est une évidence. Et tout le monde le reconnaît, tous les observateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux.
Alors, quelles pourraient être ces forces? Vous êtes député national. Il y a eu un moment, il y avait toute une commission parlementaire qui a beaucoup travaillé sur ça. Quelles sont ces forces? Serait-ce des Chebabs ou des groupes armés nationaux?
Écoutez, les ADF sont effectivement composés de toutes sortes, comment dire, c'est une nébuleuse internationale. Hein. Il y a des gens qui sont recrutés dans les différents pays, que ce soit la Somalie, le Kenya, la RDC aussi, la Tanzanie, le Burundi et bien d'autres pays, le Rwanda. Donc ça, c'est une réalité. Mais étant donné le niveau supposé d'affaiblissement de ces ADF par rapport à toutes les opérations qui ont été menées, je rappelle que le commandement militaire, il y a quelques années, nous disait que la capacité de nuisance des ADF avait été réduite de 85-90%.
Merci.
Donc il est tout à fait anormal de penser qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes ADF qui sont même plus forts qu'avant.
Merci. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, quelle explication pouvez-vous donner à ce énième massacre?
Merci en tout cas pour l'invitation à participer à ce débat. Je pense que c'était l'occasion pour saluer les auditeurs de Radio Capi ainsi que mes co-débatteurs. Mais il faut bien, pour bien comprendre d'abord ce conflit et cette situation, il faut bien se remettre dans le contexte. Il faut savoir que cette région est touchée par ce conflit et essayer de comprendre c'est quoi cette région. Lorsque vous regardez uniquement les chiffres, vous allez vous rendre compte que la région dont on parle, c'est la région qui est peuplée essentiellement par le groupe ethnique Nandé. Et quand vous regardez le groupe ethnique Nandé au niveau politique, vous devez comprendre que le groupe ethnique Nandé, c'est-à-dire le groupe communauté Nandé, pèse au niveau de la RDC plus ou moins 5% de la représentation nationale. Et il faut savoir qu'il n'y a aucun groupe communautaire qui pèse autant au niveau national. Et si ce groupe pèse autant au niveau national, vous devez transposer ça au niveau provincial pour voir un peu ce que ça donne à un niveau provincial. C'est-à-dire que le groupe Nandé, le groupe communautaire Nandé, a plus ou moins 23% de 23 députés nationaux, et ces 23 députés nationaux en tenant compte uniquement du Grand Nord, sans tenir compte par exemple de la ville de Goma ou bien d'autres circonscriptions électorales où on pourrait avoir des élus nandais, donc on peut penser que c'est la plus grande communauté politique au-delà de la communauté ethnique, c'est la plus grande communauté politique de la RDC. Ensuite, il y a une deuxième lecture qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette communauté a toujours eu ce qu'on appelle des règles de régulation des conflits en interne depuis tout un temps. Ils ont eu un pôle politique et politique qui a été pendant tout un temps, entre guillemets, piloté par le feu Abbé Malo Malo pour essayer de réguler, on va dire grosso modo, les conflits politiques qui pourraient naître de l'apathie de cette représentation qui fait que c'est une communauté quand même qui pèse dans la dynamique politique congolaise. Ensuite, il y a le pôle économique. Vous devez savoir que le groupe communautaire Nandé est le groupe communautaire ayant le plus de puissance économique à RDC, c'est-à-dire c'est un groupe qui représente au niveau économique une assez forte économique très puissante, et c'est d'ailleurs la première force économique congolaise, au-delà de toutes les communautés internationales ou bien des groupes internationaux comme le groupe minier. À elle toute seule, elle parvient à peser presque autant que certains groupes miniers en RDC. Il y a un troisième pôle qui est le pôle religieux, qui est aussi faire en sorte qu'il y ait une espèce de régulation de manière très claire pour qu'il n'y ait pas cette dimension religieuse qui arrive à influer sur cette dynamique. Or, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'au niveau politique, au niveau économique et au niveau religieux, cette régulation a été mise en difficulté, a été un peu
dénaturer. Alors en dénaturant cette dynamique qui a toujours existé depuis bien avant, avec la mort du feu l'abbé Malomalou, avec aussi au niveau économique la mort de plusieurs grands commerçants nandais, et aussi l'affaiblissement de l'archevêque de Butembo, fait en sorte que la dynamique est un peu enrayée. Et dans cet enrayement de dynamique, surgit des appétits par rapport à l'occupation de ce pôle intéressant qui est un pôle économique, politique et aussi religieux, comme je viens d'expliquer, très important, crée des dynamiques conflictuelles. Et ces dynamiques conflictuelles que vous conjuguez maintenant à un environnement où vous avez l'interférence d'un groupe étranger qui s'appelle ADF, qui intervient dans ces dynamiques, alors vous avez ce qu'on appelle l'alchimie claire d'une espèce d'explosion de la violence qui malheureusement va se nourrir des antagonismes qui vont continuer à naître entre justement la dispute des différentes, des différents groupes constituant la communauté nandé, profiter du fait de la présence des AF de Namunalu pour se régler les comptes, et se régler les comptes fait en sorte qu'on a une dynamique maintenant conflictuelle. Cette dynamique conflictuelle, elle a une dimension régionale, avec l'implication des ADF, ça veut dire des gens qui viennent de l'Ouganda et qui s'assemblent avec des groupes locaux et qui créent cette insécurité, avec le fait national
professeur.
Que... Oui.
Professeur, peut-on parler brièvement d'une guerre sociologique?
Non, on ne peut pas parler d'une guerre sociologique. On doit plus parler, en fait, d'une conquête de pouvoir entre deux groupes, entre des groupes qui constituent la communauté nandé. Et ces conquêtes de pouvoir s'allient, malheureusement, à une dynamique conflictuelle qui vient de l'Ouganda. Et cette dynamique, cette dynamique conflictuelle pour le pouvoir au sein de la communauté nandé est relayée non seulement à Goma, mais aussi, malheureusement, à Kinshasa et aussi au niveau étranger. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce conflit. Si on essaye de l'analyser différemment, on ne va pas s'en sortir. Et de ce point de vue-là, de mon point de vue, les forces armées congolaises n'arriveront jamais à pouvoir remettre cette partie de la RDC en sécurité, puisque nous allons toujours avoir cette dynamique conflictuelle par rapport à la lutte pour le pouvoir. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Par exemple, la province de Goma, la province du Nord Kivu, a un député, a un gouverneur qui est un gouverneur nandé. Et ce gouverneur revendique un certain leadership sur la communauté du fait qu'il est gouverneur du Nord Kivu. Malheureusement, cette revendication est remise en cause par d'autres dynamiques qui sont développées non seulement à Beni Butembo, mais aussi à Kinshasa par rapport
Merci.
À la contestation de ce leadership vis-à-vis de ce gouverneur.
Merci, professeur. Nous allons prendre pour vous, monsieur le gouverneur Julien Paluku, cette réaction qui nous vient de l'Ituri.
Racidi migratio de Mambasa dans la province de l'Ituri. La situation de Beni est loin d'être d'ordinaire. Il est inacceptable et inadmissible qu'une partie aussi fortement militarisée fasse intérêt des attaques interminables des forces dites terroristes ou des présumés ADF. Pour ne plus qu'une fois, nos autorités ne peuvent pas accepter qu'elles sont dépassées par la force et la technique de l'ennemi. Sinon, s'il y a un défi qui bloque la fin de ces opérations, qu'elles nous disent comment comprendre qu'une rébellion si organisée comme le MV3 avait été facilement boutée, mais avec des présumés ADF, on est dépassé.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, pourquoi ne reconnaissez-vous pas que vous, les autorités provinciales ainsi que les autorités nationales, êtes complètement dépassés par cette situation?
Oui, je voudrais dire à l'auditeur de l'Ituri, monsieur Rachid, que effectivement la situation qui se passe à Beni est mal comprise, parce que les gens la confonde à des poches d'insécurité que nous avons connues des Maïmaï, ou alors la guerre classique que nous avons faite avec les M23 ou les CNDP à l'époque. C'est cette mauvaise compréhension en fait qui fait que on a minimisé la situation de Beni, nous tous, population, armée, société civile et tous les acteurs sociaux. Je voudrais répondre à l'auditeur en disant, mettons-nous dans l'optique où ce qui se passe à Beni se passe à l'absence d'un seul militaire. Mettons-nous dans l'option où, alors aujourd'hui, il n'y a pas un seul militaire, ce que serait devenu le territoire de Beni. C'est comme ça qu'il faut analyser la situation. Donc je crois que les efforts que le gouvernement congolais, les efforts que les forces armées sont en train de déployer limitent effectivement les dégâts, parce qu'à l'absence de la présence de ces forces armées, ça aurait été la catastrophe dans les territoires de Beni. C'est de cette manière que nous devons voir ce qui se passe. Lorsque l'honorable Grégoire Kiro dit, par exemple, un militaire est arrivé, il voulait voler une chèvre et il a tiré sur la population, ce sont des cas qui sont regrettables. Mais on ne peut pas généraliser un cas des militaires qui s'est mal comporté pour dénaturer le travail de toute l'armée et ne pas reconnaître effectivement ce qu'il est en train de faire. Et je suis d'avis avec lui lorsqu'il dit que nous devons nous mobiliser tous pour devoir faire face à ce terrorisme, parce que l'identité de ces ADF, effectivement, nous rappelle que nous avons en face de nous un terrorisme. Ce qu'a décrit le professeur Bob Kabamba, il a fait une description sociologique de ce qui se passe, eh bien, de ce qu'il y a dans la partie Grand Nord, mais ce ne peut pas être la cause des attaques répétitives qui se passent dans les territoires de Beni, parce que les gens qui ont tué depuis 2014, on les a vus, et la cible, on n'a pas vu ces actions s'étendre sur l'ensemble de ces espaces-là. Donc nous devons comprendre que le prolongement du massif de Rwenzori, qui fait effectivement les bastions des ADF venus de l'Ouganda à la fin des années 80, ce prolongement-là fait que ces ADF recherchent la survie dans cet espace qui est proche de l'Ouganda, et moi je considère que l'approche qui doit être aujourd'hui mise en branle, c'est que entre l'Ouganda et la RDC, on doit repenser nos relations diplomatiques et de proximité par rapport à la gestion de cette question, pour nous dire, eh bien, la proximité entre nous et l'Ouganda et le trafic qu'il y a éventuellement entre nous et l'Ouganda, pour que ces gens aient régulièrement des armes, aient régulièrement des munitions, aient régulièrement des médicaments, nous devons voir ce schéma d'approvisionnement, cette chaîne-là, d'où vient-elle entre l'Ouganda et la RDC?
Monsieur le gouverneur, vous avez souvent parlé de guerre asymétrique, mais pourquoi, depuis tout ce temps, nos forces armées ne parviennent pas à s'adapter à ce type d'attaque?
Bon, moi, je pense que les gens ne savent pas que la guerre qui se passe à Beni n'est pas dans un stade de football, n'est pas dans une savane. Ce sont des forêts. Ceux qui savent bien la partie, c'est des forêts denses où même pour les pénétrer, nos forces armées doivent faire 3 ou 4 jours pour faire peut-être 5 kilomètres. Il faut que les gens le sachent. C'est pas que on fait la guerre au vu de l'ennemi. C'est une forêt antédiluvienne comme la forêt équatoriale, des arbres qui ont fait des siècles et des siècles sans être coupés. Merci. En face desquels se trouve notre armée, et dans lesquels, à l'intérieur desquels, les rebelles vivent depuis 30 ans. Merci. Donc je crois que la guerre, on sait que quand elle commence, malheureusement, on ne sait pas quand elle se termine.
Merci, monsieur le gouverneur. Honorable Grégoire Kiro, il y a pour vous cette réaction que nous allons suivre.
Noël Mpulumba Kazadi, à partir de Mbujimayi, province du Kassai-Oriental. Je crois qu'il revient au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de nous expliquer au juste ce qui se passe à l'Est. Car il n'y a pas longtemps, le ministre Mova Sakanya nous a garanti que c'est fini avec les atrocités de l'Est. Et le ministre de la Défense doit nous expliquer aussi ce qu'il fait comme travail à l'Est. Nous avons comme impression que c'est devenu une habitude, le maître au Nord Kivu. Finalement, l'Est des petits pays risque de se vider de sa population qui se sent abandonnée chaque jour, et je me demande comment on parviendra à organiser les élections.
J'ajoute cette réaction de Sabin Yanda de Butembo qui dit, à mon humble avis, il s'agit là des signes qui prouvent la faiblesse avérée de l'autorité de l'État, pour ne pas dire son absence. Pour pallier à cette situation, je demande aux compatriotes de l'Est du pays d'être vigilants en dénonçant toute personne dangereuse pour la sécurité nationale, honorable Kiro.
Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur Kazadi, qui dit que le gouvernement, à travers notamment ces deux ministres, ils doivent nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe à Beni. Et c'est dans cette optique-là que nous, les députés, nous faisons tout pour les faire venir dans l'hémicycle afin qu'ils s'expliquent. Et malheureusement, on ne sait, ils ne savent même pas venir s'expliquer parce que ils sont protégés par la majorité. C'est vraiment déplorable. En tout cas, nous avons fait plusieurs initiatives parlementaires dans ce sens-là. Malheureusement, nous ne parvenons pas. Mais là, j'aimerais quand même revenir sur les propos graves, tenu par le professeur Bob Kabamba, qui est quand même professeur de son état, qui réduit la guerre à Beni avec des massacres, parce que nous sommes à plus de 2700 morts au jour d'aujourd'hui, à une guerre Nando-Nandé. Je crois que c'est quand même assez déplorable de dire que les EDF, rebelles étrangers, profitent de toutes ces contingences entre nous, entre Nandé, pour venir faire ce qu'ils font chez nous. Je crois que le professeur est victime de la propagande, d'une certaine de la propagande qui se vit dans certains milieux, notamment ici à Kinshasa, qui veut que ce soit les Nandé qui soient à l'origine de leur malheur. Comment les Nandé pourraient être victimes à l'origine de leur malheur alors que c'est un peuple au commerce florissant qui est en train de décliner, de péricliter justement à cause de cette insécurité. Les gens ne savent plus aller au champ. La population de ça ne sait plus vivre dans la quiétude à cause de cette insécurité. J'aimerais rappeler à tout le monde que la guerre telle que nous la concevons, telle que nous la voyons à Beni, mais pas seulement, disons dans tout le Grand Nord, elle revêt deux dimensions. Il y a une dimension internationale. Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a des pays voisins, il y a des pays limitrophes, nous pouvons les citer, notamment le Rwanda et l'Ouganda, qui ont toujours eu des velléités d'envahissement d'une partie de l'espace congolais. Et cette partie se fait malheureusement que cette partie correspond à la partie territorialement, sociologiquement habitée par les Nandé. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il y a une dimension interne. Tous ces gens qui veulent nous déstabiliser à l'international, ils ont des relais à l'intérieur de notre pays. À ce sujet, nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas mettre de côté la réalité que il y a, depuis plusieurs années, des déplacements de populations soi-disant congolaises venant de Rutshuru et de Masisi pour aller du côté de l'Ituri, alors qu'en réalité, tout le monde sait qu'il s'agit de citoyens essentiellement étrangers et rwandais. Tout le monde le sait. Donc c'est une réalité que nous ne pouvons pas oublier. Alors essayez, tenter de réduire le problème.
C'est donc une mauvaise approche pour vous.
Absolument, c'est une très mauvaise approche.
Alors le gouverneur Julien Paluku l'a aussi évoqué, il y a nécessité de revoir les accords, les relations entre, il a parlé de la RDC et de l'Ouganda, vous avez ajouté le Rwanda. En quoi ce serait efficace?
Ben écoutez, il y a une structure dont le nom m'échappe, une espèce de tripartite entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, qui est là pour surveiller toutes les exactions et tous les mouvements suspects venant des uns vers les autres. Mécanisme conjoint, voilà. Ben écoutez, ce mécanisme conjoint, je crois qu'il n'y a que la RDC qui y croit. Il n'y a que la RDC qui y croit parce que nous savons tous que l'armée ougandaise nous attaque très régulièrement. Il y a même parfois des militaires ougandais qui sont tués en RDC. Et ce sont les officiels congolais eux-mêmes qui prennent la défense et dire, voilà, ce ne sont pas des militaires de l'armée régulière ougandaise. Donc, je crois que ce mécanisme-là, il n'y a que nous, les Congolais, qui y croyons. Il n'est un secret pour personne que le Rwanda déstabilise la RDC depuis de longues années. Ça, c'est vraiment un secret politique.
Merci. Je reviens à vous pour la conclusion. Professeur Bob Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Lualaba.
Professeur Ignace Nala, depuis que le vit dans le Lualaba, il n'est pas aisé à ce jour d'admettre que cet état des choses est bel et bien un fait surprise. Quand on regarde le mode opératoire, les dégâts auxquels s'ajoute cette pseudo-incapacité des structures y affectées à le contenir, on pense qu'on a affaire à un complot en interne comme à l'externe pour déstabiliser la RDC. Car ce désordre permet l'enrichissement de certaines sociétés. Cette guerre qui ne dit pas son nom doit réveiller le nationalisme congolais.
Professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment une question intéressante qui rejoint à ce que j'avais déjà dit et que même si l'honorable dénonce mes paroles, mes propos, mais il le confirme de manière très claire lorsqu'il parle qu'il y a effectivement des relais à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à l'intérieur de la communauté Nandé par rapport à ce qui se passe, par rapport à la dynamique étrangère. C'est tout à fait ce que j'ai bien expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, grosso modo, il y a une situation, comme j'ai expliqué, qui fait en sorte que l'on profite du fait que les éléments des AFDF ne viennent que, entre guillemets, trouver un terrain qui est un terrain propice. Par ailleurs aussi, dans plusieurs rapports, ce sont les rapports de la MONUSCO, les rapports des ONG locales
de Beni et de Butembo souligne que parmi les ADF, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes Nandais qui rejoignent ces groupes et qui se définissent comme ADF Nanou et qui pratiquent et qui sont aussi, qui interviennent dans ces différents massacres et qui massacrent aussi. Ce n'est pas de la propagande de Kinshasa, mais ce sont des faits qui sont rapportés par les ONG venant même de Butembo. Pour l'honorable, je dois aussi souligner quand même que je suis aussi professeur, non seulement de mon état, mais je suis aussi professeur à l'université de Graben à Butembo. Et donc, de ce point de vue-là, ce sont des rapports qui viennent aussi des ONG, mais aussi de certains de mes collègues qui sont encore présents à Butembo.
Professeur?
Et qui font aussi état de cet état de fait. Donc,
professeur?
Il y a effectivement une dynamique, oui.
Peut-on dire que jusqu'aujourd'hui, on a proposé des mauvaises solutions aux mauvais problèmes?
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a toujours posé de mauvaises solutions à ce problème qui est en train de se vivre dans cette région. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à se lancer dans une dynamique qui est une dynamique conflictuelle, c'est-à-dire mettre l'armée sur un terrain où même le gouverneur lui-même reconnaît que ça ne sert à rien d'envoyer l'armée contre un ennemi que l'on ne connaît pas, un ennemi qu'on ne voit pas, qui pratique une guerre asymétrique, ça ne sert à rien de pouvoir se lancer dans une telle guerre. De mon point de vue, la solution passe par la restauration d'une dynamique de régulation au sein, dans un premier temps, au sein de la communauté nandais. Dynamique de régulation qui concerne aussi bien le secteur politique, c'est-à-dire par rapport à la lutte du pouvoir, par rapport à leadership qui doit être défini, par rapport au secteur économique, c'est-à-dire que nous savons très bien, et que, comme je l'ai réexpliqué tout à l'heure, qu'il y a une dynamique économique qui existe, qui est prouvée, qui est même de manière claire chiffrée par non seulement toute une série de structures, et qui disent de manière très claire que la communauté nandais vaut, par exemple, un investissement comme des investissements miniers qu'il y a dans la province, dans l'ancienne province du Katanga. Et il y a aussi des dynamiques religieuses. Malheureusement, toutes ces dynamiques-là se sont retrouvées un peu décapitées, et on a, en décapitant la dynamique, nous nous retrouvons en fait dans une espèce de lutte qui, pour laquelle il n'y a pas. Alors, en restaurant cette régulation au sein de la communauté, il va falloir montrer qu'à ce moment-là, que la communauté va pouvoir se désolidariser des éléments ASDN Lalou, et que ASDN Lalou ne vienne plus interférer dans la dynamique conflictuelle qui existe actuellement au sein de la communauté nandais. Pour ma part, c'est l'une des pistes, mais cette piste nécessite à ce que tous les politiciens, tous les acteurs socio-économiques, tous les acteurs religieux, tous les acteurs même chefs coutumiers, etc., s'impliquent véritablement dans cette dynamique. Et si cette dynamique se met véritablement en place, il y aura effectivement des résultats où l'FDLF Nalou n'aura plus de relais au sein de la communauté nandou pour pouvoir, communauté nandais, pour perpétrer les crimes horribles qu'ils sont en train de commettre et dont la population nandais est la première victime et pas nécessairement les Ougandais qui sont pour le compte duquel on essaye de dire que c'est eux qui sont à l'origine de ça.
Bon, professeur, on sait que les massacres ont commencé en 2014, mais ce conflit, cette dynamique que vous évoquez, date de très longtemps. Est-ce qu'on peut vraiment faire le lien?
Oui, tout à fait, parce que tout simplement, il faut mettre aussi les liens. C'est-à-dire, grosso modo, quand vous mettez la date de 2014, vous devez vous rendre compte, vous mettez uniquement cette dynamique par rapport à ce que je viens d'expliquer, par rapport aux actes, vous allez vous rendre compte, effectivement, que toute la dynamique économique qui existait au sein de la communauté nandais a été décapitée à cette année-là. Toute la dynamique politique qui existait dans la dynamique nandais a été aussi décapitée à ce moment-là.
Merci.
Et beaucoup plus, puisqu'il y a eu un affaiblissement de ça. Et aussi même la dimension religieuse. Et si vous voulez même savoir, vous allez vous rendre compte que lorsque vous regardez, par exemple, la parole de l'archevêché de Butembo est devenue inaudible dans la dynamique actuelle.
Merci, professeur. Je reviens à vous. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous avez suivi le professeur Bob Kabamba qui pense que la solution demeure dans la restauration d'une dynamique de régulation dans la communauté nandais. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je ne le partage pas parce que je vais illustrer par des éléments. L'évêque de Butembo est investi en 1998. Aujourd'hui, ça fait 28 ans. Le gouverneur du Nord Kivu, Nande de son état, est élu en 2007. Le massacre survient en 2014. L'abbé Malumalu est mort en 2016. Le massacre a commencé en 2014. Donc il y a aucun lien entre le pouvoir d'un évêque qui est là depuis 26 ans et que le massacre est survenu quelque temps après. Il n'y a pas de lien entre un gouverneur qui est élu en 2007 et le massacre est survenu 7 ans après. Donc moi je crois que effectivement on déplace souvent les problèmes par des analyses théoriques qui désorientent effectivement parfois le gouvernement, qui peuvent s'attaquer aux réels problèmes tels qu'ils se posent. Lorsque, dans la partie Beni Lubero, on a tendance à réduire les problèmes des attaques des ADF à la communauté Nande, effectivement, c'est comme pour sacrifier cette communauté à son triste sort, parce que toutes les personnes qui meurent aujourd'hui sont de cette communauté. Je ne vois pas une communauté avec ses leaders en train de faire une politique pour exterminer les leurs, je ne sais pas au profit de quel autre peuple. Cette analyse, à mon sens, devrait interpeller le professeur pour qu'il revoie ses ONG. Nous connaissons la politique des ONG de notre pays. Beaucoup d'ONG sont là pour attirer les fonds à l'extérieur. Il suffit qu'il fasse un rapport où il a un mot d'ordre du bailleur des fonds pour dire voici la ligne éditoriale dans laquelle vous devez inscrire votre rapport pour avoir ma source de financement. Nous connaissons ce genre de choses, comment les ONG vivent.
Merci,
moi, je crois que nous devons beaucoup plus voir les problèmes de la manière dont il se pose. Nous devons soutenir notre armée. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre depuis tous ces temps.
Merci, monsieur le gouverneur. Souffrez que je vous arrête à ce niveau. Je reviens à vous pour la conclusion, honorable Kiro. Pour vous, la solution, finalement, c'est quoi?
Ben, écoutez, je crois que la solution, il existe plusieurs pistes de solution. Il faut déjà identifier clairement l'envahisseur, parce que nous sommes convaincus que, outre les EDF, il y a aussi d'autres groupes qui participent au massacre, simplement parce que les EDF, logiquement, ils ne peuvent pas être capables de faire ce qu'ils font. Je crois que nous devons aussi envisager la mise sur pied l'appel d'une opération comme celle qui s'est déroulée à Nitori il n'y a pas si longtemps que ça, Artemis, et qui a porté ses fruits. Je vois aussi que la MONUSCO doit être mise à contribution dans la lutte contre ces massacreurs, parce qu'il nous revient que la MONUSCO ne participe pas à tous ces combats-là. Mais je crois qu'il faudrait quand même...
Et donc il faut revoir la collaboration FARDC et la MONUSCO.
Oui, absolument. Mais je crois aussi qu'il faudrait mettre la CPI à contribution, parce que je crois que s'il y a des mandats d'arrêt qui sont lancés contre tous ceux qui sont cités dans ces exactions-là, eh ben, il y aura quand même un effet de dissuasion. Mais je crois qu'il faudrait quand même, pour conclure, que je revienne sur les propos du professeur Bob Kabamba. Quand je parle de relais des envahisseurs étrangers en RDC, ce n'est pas dans la communauté Nandé. Ils se retrouvent aussi bien à Kinshasa qu'ailleurs. Le peuple Nandé, c'est la victime. Il n'est pas question qu'il soit réduit en coupable. Le peuple Nandé, c'est la victime. Elle est victime de sa démographie, de son dynamisme économique, etc. Il y a des forces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui en sont jaloux et qui ont juré d'en finir avec le peuple Nandé. Voilà la vérité.
Mais vous avez parlé de l'identité des assaillants. Il y a eu des procès qui devaient normalement donner facilité que l'on détecte l'identité, mais sans succès.
Oui, mais la vérité, c'est que après 8 ou 9 mois de procès à Beni, en tout cas, on n'est pas sorti de ce procès plus avancé qu'avant, tant et si bien qu'au jour d'aujourd'hui, on continue à parler de présumés EDF. En tout cas, ce procès on a eu l'impression qu'il a été mis sur pied essentiellement pour blanchir un certain nombre de personnalités.
Professeur Bob Kabamba, quelle est votre conclusion?
Merci, Azuka. Ma conclusion n'a pas changé de manière claire. C'est-à-dire que dans toutes les dynamiques conflictuelles, malheureusement, l'histoire politique de la RDC, elle est pleine de cette dynamique. Lorsqu'il y a effectivement sur le terrain une espèce de dynamique politique conflictuelle locale à un moment donné, et qui profite d'une déstabilisation venant de l'étranger, ça crée les conflits que nous connaissons. On a connu Moussa, on a connu Tundamatoire, on a connu la M23, on a connu le CNDP, on a connu Moutebroussi, on a connu d'autres mouvements qui ont existé de par la l'histoire politique de la RDC, il y a toujours cette dynamique-là. Et lorsque, au niveau congolais, on arrive à avoir une dynamique contre l'implication de l'étranger vis-à-vis des problèmes internes qui peuvent être réglés politiquement et pacifiquement, on arrive à régler les différents conflits.
Merci. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, conclusion.
Oui, conclusion, j'ai dit au début que ce débat est provocateur. Je pense que vous l'avez senti dans le déroulement de l'émission. La population ne veut pas qu'il y ait des gens qui tirent sur elle alors qu'elle est en train de mourir. Il faut que tous ensemble, nous nous liguions autour de notre armée parce que c'est la seule armée que nous avons. Si nous nous liguons, eh bien, cette guerre, je sais qu'elle prendra fin. Elle ne durera pas tout le temps que nous serons sur la terre.
Merci,
je crois que l'important pour nous, c'est pas de nous glorifier quand les gens meurent, c'est plutôt de chercher des solutions ensemble.
Merci, monsieur le gouverneur. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.